Bunte. Pour nous, il a été clair très tôt que nous suivrions un autre chemin et que nous renoncerions au mariage, déclare George Ratzinger, lui-même simple prêtre. 15h03 sur Inter.
Le cinéma et la critique face à face, mais un certain cinéma, Laurent, et une certaine critique.
Oui, invité Louis Garrel dans Un été brûlant et François Morel pour la mise en scène de sa pièce sur Bory et Chat en sol, instant critique.
Mais Philippe Garrel s'est enfoncé dans une direction où il cherche véritablement à faire, avec des images et des sons, l'équivalent d'un poème.
Le cinéma, c'est vraiment le samedi à 10h.
Oui.
Avec Christine Masson.
Fiche, comme tu dis.
Et Laurent Delmas.
France Inter. La
différence. Daniel Mermel, là-bas, si j'y suis, c'est tout de suite.
Éloquent cet entretien de ce mardi avec Pierre Péan et inouï ce parcours vertigineux d'un gamin malin de Sarcelles à qui les plus grands, les plus puissants, du moins de la République, mangent dans la main. C'est incroyable. C'est Jocelyne. Au revoir.
Tu es ministre de la République et une petite voix te dirait « Allez, allez, prends cette mallette, elle est bourrée de grosses coupures. Personne n'en saura rien et ça te servira pour ta future campagne. » Ah oui, c'est plutôt tentant. Ah non, frauder c'est pas bien pour l'économie de mon pays, la France. J'aurais bien dit oui, mais ils n'ont même pas mis la Rolex avec.
Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Prochainement, sur le répondeur de là-bas si j'y suis, Claude, le retour. Etc, etc, parce qu'on n'a pas les crédits pour passer toute la musique.
Bonjour, je vous appelle d'Ormois, un petit village à côté de Corbeil-Essonne, où se trouve un camp Rom, où vivent 400 personnes, un véritable bidonville. Une association de solidarité s'est créée pour les aider dans différents domaines, l'accès aux soins, la scolarisation des enfants, etc. Il y a un an, la collectivité a cessé le ramassage des ordures. Alors, comme aucune solution n'était trouvée et que la question de la salubrité devenait préoccupante, les rats se multipliaient, l'association a organisé une journée de nettoyage et a sorti plus de 2000 sacs sur le bas-côté. Cette action a été utile puisque maintenant le ramassage des ordures est effectif. Mais dernièrement, le président de l'association a été assigné à comparaître au tribunal d'Évry le 22 septembre. Depuis quand les actions citoyennes et de solidarité sont-elles réprimées par la loi? Pour exprimer notre indignation, nous organisons une manifestation jeudi 22 septembre à partir de midi, place des terrasses de l'Agora à Évry.
Bonjour à tous. Je viens d'apprendre à la radio la condamnation à mort, ce soir, mercredi, de Troy Davis pour le meurtre d'un policier en 91 en Géorgie. Ils n'ont aucune preuve matérielle et 6 témoins sur 9 se rétractent, disant qu'ils avaient eu peur de la pression policière pendant l'interrogatoire. Il a eu la malchance d'être né avec la peau noire et d'avoir été sur les lieux du crime. Je vous en prie, allez tout de suite, maintenant, signer la pétition d'Amnesty International que vous trouverez sur le net. Au revoir, Nathalie de Saint-Jean-du-Gard.
Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Un an de plus, un an de moins. À l'âge où l'on aime se croire adulte, mais où l'on n'est encore qu'adolescent, je m'interroge sur ce monde que j'apprends à connaître. Depuis quelques années, et à mesure que je grandis, l'insouciant en moi est rattrapé par la réalité carnassière. La fraîche douceur des matins est trop vite avalée par l'activité insensée de l'homme. Quand j'entends ce qu'il se passe de par le monde, je ne sais plus très bien si je dois être effrayé, attristé, révolté, ou bien chacun de par les autres. Une France qui soutient une révolution mais refuse d'accueillir ces hommes-là sur son sol, et dont le président s'acharne à asservir les masses à un système puant où le fric est d'ores et déjà Dieu tout-puissant. L'Afrique, que l'on maintient dans la misère pour mieux la piller et la violer, les États-Unis, se croyant autant que nous civilisés, et qui ce soir exécute un homme sûrement par principe, Israël qui ghettoise Gaza, afin de mieux pouvoir euthanasier ce peuple qui l'aura rendu fou dangereux de ressentiment, et la communauté internationale qui laisse faire, paralysée par le lobbyisme, celui-là même qui bloque l'accès des plus pauvres aux médicaments. La liste est loin d'être exhaustive. On verse à une crapule des millions au nom du préjudice moral, tandis que les accusés d'outreau se contentent d'une cellule psychologique. Et pendant qu'un ancien président échappe à la justice en jouant les séniles, à Paris, on pleure sous deux tours en carton à propos d'un 11 septembre, en oubliant cet autre où Pinochet aidait des Américains poignardés à la liberté au Chili. Nous sommes tous des Américains. Pauvres idiots. Même s'il y a encore du boulot, nous sommes tous des humains. J'ai souvent entendu dire les générations antérieures à la mienne, quel monde laisserons-nous à nos enfants? Pour ce qui est de moi, on m'a laissé un monde qui fait peur et qui fait mal. Puis-je lutter jusqu'au bout pour en laisser un moins pire au mien, où l'orange rougi du soir ne le serait pas par le sang, mais par l'espoir. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, et j'ai mal à mon humanité.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici, à Ramallah. À Ramallah, où vous le savez sans doute, il y a une grande manifestation qui est en train de finir. Il y a eu d'autres manifestations dans les villes de Cisjordanie, à Hébron, à Naplouse, pour appuyer la démarche de l'autorité palestinienne pour la reconnaissance de l'État palestinien. Partout, vous voyez le chiffre 194, 194, ou bien c'est ce que rêve d'être la Palestine, le 194e État sur cette planète. C'est pas gagné, mais les Palestiniens y croient. À entendre les discours, les drapeaux, la musique et tout ce qu'on a pu entendre ce matin, avec une abondance considérable de médias, de caméras, de photographes et journalistes venus du monde entier, parce qu'évidemment, c'est un enjeu important avec bras de fer diplomatiques, chassés croisés de toutes sortes, menaces, peurs, etc. Peur, ici, on parle, on craint, des manifestations violentes, les uns le redoutent, d'autres sont beaucoup plus, la plupart sont assez sereins. On va voir dans les heures qui viennent. S'il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Ramallah, il n'y a pas tout le monde. Le Hamas n'approuve pas la démarche. Le Hamas en Cisjordanie représente environ 30% de l'électorat. Et puis il y a les réfugiés dans les camps, les réfugiés de 49, qui et les autres, ils sont environ 1 million en train de croupir misérablement dans ces camps depuis très longtemps, et ils sont très perplexes devant cette démarche. Ça mérite, je crois, d'être signalé. On vous racontera ça dans les jours qui viennent et à notre retour. C'est un enjeu évidemment passionnant et qui nous concerne tous. Ce qui nous concerne aussi tous, c'est la fiscalité. Ça nous intéresse au premier point. Pourquoi ? Parce que on a une crise de la dette. On dit il y a une crise de la dette. Mais on oublie très souvent que cette crise de la dette est aussi une crise des recettes. Et les recettes, c'est la fiscalité, c'est les impôts pour l'essentiel. Aussi, on va revenir aujourd'hui sur une émission qu'on vous avait présentée il y a environ un an. La fiscalité fabrique des inégalités. C'était un reportage de François Ruffin. On revient sur ce sujet dans une nouvelle version. Ça me semble effectivement important de réfléchir là-dessus et de nous informer sur la fiscalité. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la page si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, il est 8h, je suis sur France Culture sur une énième émission sur la dette, la Grèce, l'Italie, etc. Quand on est au quotidien dans les relations qu'on a avec les banques, on en a vraiment ras-le-bol d'entendre tout ça. Moi je suis enseignant avec un projet professionnel en plus, les banques n'arrivent pas à m'aider, donc moi je vais aller voir ma banque. Si elle refuse encore de m'avancer 10 000 euros, pour mon projet professionnel, qui seront largement remboursés en toute sécurité, vu en plus que je suis dans la fonction publique, moi je retire mon argent. J'en ai marre de voir que mon argent permet aux banques de faire vivre leurs projets à eux, qui sont odieux, qui sont innommables, sans nous demander notre avis. C'est quand même avec notre argent sur nos comptes courants que les banques font tout et n'importe quoi sans nous demander notre avis pour leurs projets. Ils sont pas fichus de nous aider pour nos projets qui pourraient leur rapporter de l'argent. Ils ne veulent plus nous vendre de l'argent. Ils préfèrent jouer avec notre argent qui est sur les comptes en banque. Donc si j'ai un énième refus alors que c'est une sécurité totale, je retire tout mon argent. J'irai chercher mes 30 ou 30 000 euros qui me restent. Ils seront entre deux piles de draps et terminé. Voilà, les banques, il y en a ras-le-bol.
Il y avait Mao et le petit livre rouge. Aujourd'hui, on a Bolloré et Direct Matin. Salut les amis.
Bonjour, ennemi de la fracturation hydraulique. Je vous appelle de Cantabrie, dans le nord de l'Espagne, où les grandes entreprises pétrolières comme Trofagaz se lèchent les babines à l'idée de forer notre belle région. La lutte a commencé cet été quand nous avons appris par la presse que des permis d'exploration et d'exploitation avaient été accordés. Donc, comme certains d'entre vous ont déjà l'expérience de la lutte contre les gaz de schiste en France, nous vous appelons tout bonnement à l'aide. Nous avons besoin de conseils, d'informations sur la situation et sur les avancées législatives en France, ou tout simplement de votre soutien. Écrivez-nous à non à la fracturation hydraulique tout attaché, non à la fracturation hydraulique, @yahoo.com. Merci, au revoir.
Salut à vous tous. Le prochain Café Repère de Savigny-sur-Orge aura lieu ce mercredi 21 septembre, à 20h30 au restaurant Le Jasmin, rue Joliot-Curie, à gauche sur le parking de la gare, juste avant de passer sous le pont. Nous avons choisi comme thème de rentrée de parler du mouvement des indignés et comme discussion, ce qui nous indigne. Il y a du boulot. Alors venez nombreux. À bientôt. Salut.
Bon, plusieurs calculettes en marche alors. Liliane Bettencourt, elle touche 400 millions d'euros par an.
Oh, 400 millions. Ah, vache.
Encore 6.
1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Mon portable, il va exploser, il n'a jamais vu autant.
Les 37 qui coûtent le plus. Donc, alors, par exemple, la deuxième, en fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire.
C'est quand vous prenez des bénéfices sur vos actions. La cession immobilière, c'est quand vous prenez des bénéfices. Vous êtes exonéré à hauteur de la niche fiscale considérable.
Alors, j'ai fait un petit tableau parce qu'en fait, on comprend pas trop. Les niches fiscales, c'est en milliards. Donc, on comprend pas trop ce que ça veut dire, des milliards.
Vous êtes imposé soit à hauteur du prélèvement libératoire, qui est de 18% d'impôt sur revenu, plus la CRDS et la CSG, ce qui fait un taux de 30%.
Oui, allez, allez.
Le taux moyen, hein, pas le taux marginal, il doit être autour de 12,8, si je me souviens bien de ce qu'il y a sur ma feuille d'impôt.
L'abattement de 40% sur les dividendes des sociétés. Je sais pas ce que c'est.
Donc on maintenait à peu près les tranches d'impôt sur le revenu, on laissait penser qu'on continuait à avoir un mécanisme progressif.
En fait, je sais même pas ce que ça veut dire.
La complexité, c'est pire que ce qu'on peut penser, parce qu'à chaque fois vous avez un principe, des dérogations de principe et des dérogations aux dérogations. Ce qui fait que le contribuable moyen, il ne peut pas comprendre.
Je perçois aux alentours de 400 millions d'euros de dividendes chaque année. Je suis un beau client pour vous quand même.
Je te suis fait épouser là.
Oui, aïe, aïe.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec François Ruffin, fiscalité, la fabrique des inégalités. Vive l'impôt!
Ah, voilà, Daniel. Je pense que j'aurais pu commencer ce reportage à peu près n'importe où. J'aurais pu le commencer dans une cantine scolaire avec des salariés précaires. Ça monte là, je suis en vélo et ça monte. Et j'aurais pu le commencer dans une maternité qui ferme à la campagne. J'aurais pu le commencer au greffe d'un tribunal qui croulerait sous les dossiers. Mais comme je suis paresseux, je vais le commencer juste au-dessus de chez moi, à Amiens. Je m'en vais à l'hôpital. L'hôpital Saint-Victor. Parce qu'à l'hôpital, cette année, à Amiens, il y a eu le premier plan de licenciement. 165 postes, je crois. Non seulement les départs en retraite ne sont pas remplacés, mais en plus, il y a eu des licenciements. Je vais juste aller poser une petite question.
Voilà, vous avez compris où nous sommes aujourd'hui avec François Ruffin. On s'est dit quand même un jour, il faudrait qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne, ces histoires d'impôts. Quand on dit impôts, on pense tout de suite à l'impôt sur le revenu, mais vous savez bien qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'impôt sur le patrimoine, il y a les taxes diverses et variées, dont la TVA, il y a toutes sortes de cotisations. Tout ça, ça constitue les impôts et c'est la chose dont on n'aime pas trop parler. Nous sommes impôtophobes et nous ne sommes pas les seuls. C'est une très vieille histoire que celle de l'imposition. Depuis bien longtemps, c'est le roturier, c'est le petit ou le petit moyen qui paye davantage que le noble ou l'ecclésiastique, bien évidemment, malgré la Révolution française qui a voulu abolir les privilèges, les privilégiés, le reste parce qu'ils s'arrangent pour ne pas payer d'impôts et comme ils ne payent pas d'impôts ou moins ou peu d'impôts, ben ils restent privilégiés. C'est le cercle magique, c'est la roue des privilèges. Or, cette roue, eh bien, on la voit tourner, on sait très bien qu'elle tourne, et on ne s'en soucie pas davantage que ça, sauf qu'on est contre ces impôts. On oublie qu'il y a un lien, bien sûr, entre les impôts et la pauvreté, et un lien avec les inégalités. Il y a même directement un détriment entre ces privilégiés qui ne payent pas d'impôts et ces infirmières qui se font virer. Puis on fera un autre rapprochement, on a voulu en savoir plus sur un autre rapprochement, sur un autre lien et sur un autre détriment, sur l'état des finances publiques qui sont en piteux état, ce dont on nous rebat les oreilles. Eh bien, cet état piteux des finances publiques, c'est d'abord parce qu'elles ont été ruinées par la politique de baisse des impôts conduite depuis 10 ans, et non pas à cause de cette crise, une chose vague, la crise économique, c'est à cause de la crise. On va apporter aujourd'hui jusqu'à 16h dans la basse, j'y suis, un éclairage différent. Fiscalité, la fabrique des inégalités, vive l'impôt.
Des gens, paraît-il, ne paient pas leurs impôts. Ils traitent ceux qui les payent de poires et de ballots. Moi, je n'approuve pas ça, je dis que ça ne l'est pas permis. Et constamment, je demande aux parents, aux amis, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes coupons des mines de gruyère et les pots de vin que tu as reçus? Tout ce que t'as gagné à la bourse, tout ce que t'as ramassé aux courses, ton 5% de tes caoutchoucs, et tes fonderies de caramel mou, et tes valeurs pétrolifères, et ta fabrique de nouilles au jus, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Il en est chaque année qui ne déclare rien, pas plus leurs 5 chevaux que leurs bonnes ou leurs chiens, afin de les forcer à faire tous leurs devoirs. Je dis à tous les gens que je vois sur le trottoir, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? T'es de Larbin, ta cuisinière, et ta villa d'Honolulu. ton cheval et ta bicyclette, ton trotteur et ta trottinette, ta clarinette et ton piano, ta DSF et ton cabot, et l'or que t'as sur les molaires de ton vieux jardinier barbu. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus?
Mais, et vous, alors, vous faites quoi dans l'hôpital?
Moi, je suis infirmière.
Et dans votre service, il y a trop de monde aussi?
Ah, dans mon service, il n'y a pas trop de monde. Il y a trop de patients et il n'y a pas suffisamment de personnes pour les accueillir comme il se doit. Enfin, moi, quand je reçois des gens et que je ne peux pas le consacrer le temps que je voudrais à les écouter, que j'ai l'impression de faire un travail à la va-vite, ça ne peut pas être satisfaisant personnellement, ni pour moi, ni pour les gens que j'accueille.
Il ne faut pas qu'on occupe tout le temps à parler, il faut aussi savoir les écouter, quoi.
Instituteur, infirmière, pompier, policier, c'est bien tous ces métiers, hein, c'est noble, c'est nécessaire, on est fiers de nos infirmières, de nos instituteurs, parfois même de nos policiers, toujours de nos pompiers, etc. Mais tout ça, c'est des fonctionnaires. On dit, ah, les fonctionnaires, bah oui, mais tous ces gens-là sont des fonctionnaires. Et il s'agit de s'en séparer, enfin du moins d'en réduire le nombre. On sait ces politiques qui sont en marche et qui avancent comme un rouleau compresseur qui détruit ses emplois et ses services et ses protections et qui se font ces destructions au détriment des trésors publics, des biens publics, des impôts et de la fiscalité. Il y a un lien direct entre tout ça et... En voici la preuve.
J'ai vu qu'il y a eu un plan de licenciement là depuis le début de l'année, c'est ça?
C'est un plan de licenciement déguisé.
C'est la première fois que ça se passe, ça, ou...
Oui, c'est le premier plan, mais on sait qu'il va y avoir une deuxième session parce qu'il faut atteindre ce qu'on appelle un contrat de retour à l'équilibre. Un déficit oblige, on supprime des emplois pour faire des économies.
Et il faut supprimer combien d'emplois là alors?
160.
283 étaient prévus, donc à l'avenir, ils vont remettre en place un deuxième plan pour arriver aux 283.
Et alors, comment ça se fait qu'on a besoin de... Il n'y a plus assez de boulot?
On en a beaucoup trop, là, vous allez nous faire mourir de rire. Non, on a beaucoup de travail. Simplement, quand on a un certain budget qui est revu à la baisse, la seule chose sur laquelle on peut toucher, puisque bon, il y a tous les investissements de matériel et tout ça, c'est sur la masse salariale. Donc, il faut être plus productif avec moins de personnel et moins d'argent.
Donc, vous diriez, à la place de supprimer 283 emplois... Vous...
Embauchons.
Est-ce que vous faites le lien entre ça, les 283 suppressions de postes à l'hôpital, là, au CHU d'Amiens, et la feuille d'imposition de Liliane Bettencourt?
Ah, arrêtez. C'est pas possible. Bien sûr qu'il faut faire le lien. Elle a des cadeaux aussi, le bouclier fiscal, l'État lui a remboursé de l'argent.
Si jamais Liliane Bettencourt, elle payait ses impôts sans niche fiscale normalement, combien de postes d'infirmiers, vous savez combien ça ferait à peu près?
Je sais pas, j'imagine même
vous
pas.
Vous voulez pas une division là? Vous avez pas une calculette là dans le coin?
Oh, on a tous des portables avec des...
Comme on vieillit, je conseillerais à mes copines et mes copains d'en faire autant parce que j'ai peur d'être un peu défaillante, vous savez.
Bon, plusieurs calculettes en marche alors? Liliane Bettencourt, elle touche 400 millions d'euros par an.
Oh, 400 millions. Oh, vache.
Encore 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mon portable, il va exploser, il n'a jamais vu autant.
Voilà, donc on est à bien avec 400 millions. Je crois que c'est 408 millions, mais enfin...
On va pas chipoter pour 8 millions. Hein.
Voilà, on n'est pas à 8 millions près. Le bouclier fiscal, normalement, c'est 1 euro sur 2. On doit pas donner plus de la moitié de son argent aux impôts.
Oh, bah,
donc on va dire que effectivement on lui en laisse la moitié, ça fait 200 millions. Là, elle paye pour de vrai 34 millions d'euros par an à peu près.
Là, ça devient compliqué.
Bah vous enlevez 40. Allez, on enlève 40 millions. 40. On dit qu'elle paye 40 millions en moyenne.
Alors, on va mettre 160 millions
divisé.
Ouais.
Combien touche une infirmière en début de carrière?
1000. Allez, on va mettre 1500 euros.
Divisé par 1500.
Là, ça va aller mieux, j'arrive mieux à gérer les zéros.
Divisé par 12 maintenant pour avoir. Sur une année.
Le problème, c'est les chiffres derrière. Alors, ça fait 8888, on dira 8889 infirmières par an.
Mais là, on n'a pas compté les charges, enfin les cotisations.
Ah, j'aime pas le mot charge.
Les cotisations, c'est combien?
Ouais, enfin, ça fait 4000 à peu près, 4200 infirmières.
Et voilà. Donc, si elle payait normalement ses impôts, on y aurait 4200 infirmières possibles en plus.
Ben, les copines, il y aurait beaucoup plus de monde. Hein.
Ça ferait un bien fou à plusieurs hôpitaux, hein, à plusieurs CHU.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans un instant.
Service de presse, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je prépare un sujet sur les impôts.
Oui.
Et j'aurais voulu demander à l'administration à Bercy, je commence par un petit truc sur l'affaire Bettencourt, et j'aurais voulu avoir deux vérifications, savoir si elle était bien taxée à hauteur de 9%.
Alors, écoutez, je vais demander à un conseiller de vous rappeler, ils sont en pause déjeuner pour le moment, donc affaire Bettencourt.
Voilà, j'aurais une deuxième question sur le fait qu'il n'y a pas eu de contrôle fiscal depuis 13 ans. Savoir si c'était bien vrai ce qui était paru dans la presse, quoi.
Super.
Je vous remercie beaucoup, madame.
Et moi, bonne journée.
Au revoir,
monsieur. Une enquête sérieuse, mais c'est difficile, hein, d'avoir ce genre de précision et d'être précisément renseigné. Très héroïque, hein, le métier de reporter à la base, j'y suis. Alors, autre chose dont on parle beaucoup sont les niches fiscales et l'optimisation fiscale. Voilà des mots jolis, niche fiscale, c'est gentil, une niche, voilà, je te fais une petite niche, ou la niche du chien-chien, c'est gentil. Optimisation, c'est sympa aussi, optimisation... Voilà, on va optimiser. C'est des mots sympas. Et on a voulu savoir ce que ça cachait un peu ces mots-là en interrogeant Liem Wang Gok, qui est un économiste bien connu et très précis sur ce domaine. Il est l'auteur de Vive les impôts et d'une histoire aussi édifiante des impôts.
L'affaire Bettencourt nous a montré que la troisième fortune de France était seulement taxée à hauteur de 9%. Avec l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, elle qui touche 408 millions d'euros à peu près chaque année, elle en laisse un peu moins de 40 millions au fisc. Donc un peu moins de 10%, aux alentours de 9%. Quand je vais à l'hôpital Nord à Amiens, je trouve un infirmier qui lui paye 12%. Moi, j'ai été à 15% avant d'avoir un enfant. Je ne sais pas vous, à combien de pourcents vous êtes...
Je crois qu'il est autour de... Le taux moyen, hein, pas le taux marginal, il doit être autour de 12,8, si je me souviens bien de ce qu'il y a sur ma feuille d'impôt. Donc, d'où vient la différence? Elle vient tout simplement du fait que les niches fiscales permettent aux riches de diminuer considérablement leur impôt, si bien que, proportionnellement à leurs revenus, ils payent beaucoup moins que les pauvres.
Alors, j'ai fait un petit tableau parce qu'en fait, on comprend pas trop. Les niches fiscales, c'est en milliards. Donc, on comprend pas trop ce que ça veut dire, des milliards pour des gens comme moi. Quand on sort la calculette, on sait même pas combien de zéros il faut mettre pour que ça donne des milliards. Donc, j'ai fait un petit truc sur les niches fiscales. J'ai les 37 dépenses fiscales sur l'impôt sur le revenu. Les 37 qui coûtent le plus. Donc, alors, par exemple, la deuxième, en fait, je sais même pas ce que ça veut dire. Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie. Donc ça revient à 3,2 milliards. Donc j'ai calculé en poste d'infirmière. Un poste d'infirmière, ça coûte à peu près 36 000 euros par an. Ça fait 100 000 postes d'infirmière. Là, abattement de 40% sur les dividendes des sociétés. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait 1 milliard 790 millions. Donc ça fait 50 000 postes d'infirmière. Là, vous comprenez ce que c'est, vous? L'exonération des gains de cession de valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne par action.
Bah c'est quand vous prenez des bénéfices sur vos actions. La cession mobilière, c'est quand vous prenez des bénéfices. Vous êtes exonéré à hauteur de la niche fiscale considérable.
Ah d'accord, je n'avais même pas compris, moi. Et donc ça arrive. C'est 30 000 postes d'infirmières, ce truc-là.
Oui.
Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. On est à 1 milliard 260 millions. Ça fait 40 000 postes d'infirmières.
Parmi les niches que vous avez citées, ce sont des niches qui profitent essentiellement aux classes riches, aux épargnants et aux entreprises.
De quand ça date toutes ces niches fiscales là? Parce que maintenant il y en a un paquet. Il paraît qu'il y a 486 niches fiscales. Là j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a 486. Finalement c'est comme si on avait un, un gruyère, c'est l'impôt sur le revenu. Et au fur et à mesure, on fait des trous dans l'impôt sur le revenu. Et à la fin, il n'y a presque plus que des trous, quoi.
Absolument. Voilà. Et ça profite à 86% aux riches.
Si on veut augmenter les impôts dans notre pays... Hein,
France Info, il y a 17 mars 2009.
Tellement de candidats pour les augmenter, vous aurez l'embarras du choix aux prochaines élections.
Nicolas Sarkozy.
Alors s'il y en a qui ça les démange d'augmenter les impôts, ils oublient qu'on est dans une compétition. Et mon but, c'est de faire venir en France, faire investir en France des gens qui ont de l'argent dans nos usines et dans nos entreprises. C'est pas de les faire partir. D'ailleurs, s'il suffisait d'augmenter les impôts pour qu'il y ait de la justice sociale, depuis des années qu'on augmente les impôts dans notre pays, gauche-droite confondu, on devrait être le pays le plus juste au monde.
Pinocchio, le nez du président doit s'allonger. Il est absolument faux de dire que les impôts ont augmenté durant les 10 dernières années. C'est absolument faux. Et c'est un rapport de l'Assemblée nationale qui le montre et qui le démontre. L'État a perdu plus de 100 milliards d'euros de recettes fiscales en 10 ans. Cette information peut circuler. Rien à faire. C'est Pinocchio qui a le dernier mot jusque-là. Et c'est quand même préoccupant parce que ce qui est juste dans ce que dit notre président de la République, c'est que c'est gauche-droite confondue, en effet. C'est en l'année 2000 qui a été marquée par une rupture dans l'orientation de la politique fiscale de la France, et on a là la véritable origine et la source du déficit des comptes publics.
J'ai des hasenettes pour le paradis fiscal. Piscine hibiscus, excusez mon mode de vie scandale. Mon angora s'appelle Britannicus. Là-haut sur la côte, ma vue, les vagues, les aigles me draguent, les journalistes me soufflent à l'oreille de jolies phrases. Mon cuisinier, mon palefrenier, ne voit décoller pour les îles Vierges aucun mandat, aucune charge. Tout transite par disque dur, je palpe chaque jour en taux d'intérêt. De quoi refaire la toiture du musée d'Orsay. J'ai un bateau taille réelle dans le salon de ma baraque au bord du lac Léman. Je suis le Mozart de l'usure. Ma caillasse attire la thune sûre. Contre les ponctions, j'ai X plan B. De nos jours, on aide ceux qui veulent flamber. La chute des riches laisse tant les fables. Les notaires savent qui est solvable. Je suis rentier. Mes comptables tapent, on me masse les pieds. Je suis rentier. C'est mon argent que l'on fait travailler. Je suis rentier. J'avais un poil au torse, on me l'a épilé. Je suis rentier.
D'accord. Ça a déjà été taxé pour 2006-2007. Ouais, c'est assez classique. Mais alors, je sais pas. Bon, moi, je sais pas si ça va avoir quelque chose avec le blanchiment ou autre. Mais bon, on verra bien. D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Maître Serazek, vous êtes avocate fiscaliste à Paris. On se trouve là, avenue Montaigne, dans votre bureau. Alors, vous intervenez notamment dans les conflits avec l'administration fiscale. Voilà, je suis un riche héritier. Je possède notamment des parts importantes dans des grandes entreprises. Je perçois aux alentours de 400 millions d'euros de dividendes chaque année. Je suis un beau client pour vous quand même.
Je suis épousé là.
Donc je perçois aux alentours de 400 millions d'euros de dividendes chaque année. J'ai bien sûr, bon, je vis modestement, entre guillemets. Je dépense, j'ai beau lire le Financial Times dans lequel il y a un supplément How to Spend It, comment le dépenser. Je ne dépense qu'à peu près 10 millions d'euros chaque année. Voilà, j'ai pas besoin de me construire un yacht tous les ans. Donc en fait, bon, bah il y a 390 millions que je n'utilise pas. Ça vient sur mon compte en banque. Je sais pas trop comment ça se passe exactement, mais ça m'arrive sur mon compte en banque par centaines de millions. Je suis imposé là-dessus assez lourdement. Je sais pas trop à quelle hauteur. Je m'intéresse pas trop à ces questions financières très exactement, mais à quelle hauteur d'après vous
Vous êtes imposé soit à hauteur du prélèvement libératoire qui est de 18% d'impôt sur le revenu plus la CRDS et la CSG, ce qui fait un taux de 30%.
Donc 30% de 390 millions, bon, ça faisait autour de 120-130 millions, je pense, un peu plus de 100 millions. Mm-hmm. Voilà, je laisse à peu près 100 millions chaque année à l'administration fiscale. Mm-hmm. Et bon, on m'a dit qu'il y avait moyen de diminuer un peu ça.
Et en plus, vous oubliez qu'on va payer de l'ISF, parce que si vous retrouvez qu'un compte bancaire de 390 millions d'euros, vous devez le déclarer à l'ISF.
Oui, aïe aïe. Enfin, quelle est l'idée que vous auriez pour que je cesse de laisser 50% de mon revenu ou 100, 200 millions d'euros chaque année au fisc?
Ah, mais il faudrait monter des structures type holding patrimonial, il faudrait le mettre dans l'assurance vie, il faudrait le placer et il faut le réinvestir en liquidité, en assurance vie ou dans le cadre d'une société holding.
Alors c'est quoi cette société holding?
C'est un outil d'optimisation fiscale, un outil de gestion du patrimoine, c'est un outil aussi d'exonération d'ISF. C'est un outil d'optimisation fiscale.
Et alors, dans mon cas, qu'est-ce que ça changerait?
Ah bah pour vous, vous ne payez pas du tout d'impôt dans ce cas-là. Et donc, ça vous ferait un taux d'imposition à 1,66, qui peut être réduit à zéro, évidemment, si la holding a des frais de gestion.
D'accord, donc là, ça,
on passe... Donc là, les dividendes, ils sont quasiment exonérés.
Sur les 400 millions, je prends mes 10 millions dont j'ai besoin, parce que j'ai besoin de ces 10 millions.
Vous avez besoin de vie pour vivre, absolument.
Donc, sur ces 10 millions-là, je vais être... taxé là.
Vous pouvez taxer et encore parce que si vous les placez en liquidité dans un compte actif liquidité style SICAV ou autre, vous arrangez pour faire une très faible plus-value, ben vous ne paierez quasiment pas d'impôts. Vous pouvez arriver à zéro impôt. Vous savez, la France, elle peut être un paradis fiscal pour les gens qui s'organisent très bien, tout à fait légalement, et qui ont des bons conseillers fiscaux. La France s'apparente à un paradis fiscal. Un paradis fiscal, entre guillemets, par certains côtés.
Eh bien, écoutez, malgré la grisaille du temps dehors et la pluie qui tombe, vous me rendez le sourire, quoi.
Faut pas désespérer.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.
Allô?
Allô, bonjour.
Je suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter.
J'avais... Oui, monsieur?
Ruffin.
R-U-2-F-I-N.
Exactement.
Votre prénom?
François.
François, d'accord.
Et j'avais déjà laissé un message et on devait me rappeler.
Vous avez laissé un message quand, je peux savoir?
Il y a une semaine. Je prends pas de notes avec autant d'exactitude que vous.
Quoi. Attendez, je fais juste une petite recherche. Oui, tout à fait. Alors, concernant l'affaire Betancourt, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'était pour savoir si c'était bien vrai qu'il n'y avait pas eu de contrôle fiscal depuis 13 ans et les chiffres qui étaient annoncés dans la presse d'une taxation de ses revenus à hauteur de 9%. Je voulais savoir si c'était des informations exactes ou pas.
D'accord. Ne vous inquiétez pas, je lui fais une vidéo de rappel.
Je vous remercie.
Et je vous en prie.
Au revoir.
Maître Serazek, qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, du cas de l'affaire Betancourt? Ça vous...
Elle a récupéré ce à quoi elle avait droit. Donc, elle a payé beaucoup d'impôts, elle a fait jouer le bouclier fiscal. En plus, elle avait une société, probablement une animatrice holding, et elle a payé ce qu'il fallait en toute légalité. Je ne défends pas particulièrement Madame Betancourt, mais je veux dire, le fait qu'on lui restitue 30 millions d'euros, c'est l'application de la loi.
Mais qu'est-ce que vous pensez de cette loi, là? Vous la mettez en application. Vous
avez... Mais en application, j'applique les dispositions de l'article 1er.
Vous avez des dossiers sur votre bureau de personnes à qui vous avez fait bénéficier du bouclier fiscal. Donc, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette loi?
Je pense que le système fiscal français est très, très, très compliqué. La complexité, c'est pire que ce qu'on peut penser, parce qu'à chaque fois, vous avez un principe, des dérogations au principe et des dérogations aux dérogations. Ce qui fait que le contribuable moyen, il ne peut pas comprendre. Et ça, c'est source d'inégalité entre les contribuables. Parce qu'il y a quand même ceux qui sont armés, qui savent s'organiser, qui savent se faire conseiller, etc.
Qui viennent voir Maître Serazek.
Par exemple, il n'y a pas que moi. Et ceux, finalement, qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas bénéficier de régime dérogatoire ou de réduction d'impôts parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc, il y a une rupture d'égalité entre les citoyens, de par la complexité même du système d'imposition français. Et ce système d'imposition, il doit être absolument, absolument revu, simplifié, corrigé.
C'est-à-dire que là, normalement, l'impôt est supposé être progressif. Et ce qu'on découvre de temps en temps...
Il est plus progressif. est plus progressif, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des contribuables qui devraient être imposés au taux marginal de 40% et qui peuvent l'être à 9, à 8, à 7, à 5.
Madame Bettencourt apparaît comme étant taxée, on va dire, entre 5 et 10%, grosso modo. Et moi, je regardais, bon, avant d'avoir un enfant, j'étais taxé à hauteur de 15,5%. Bon, maintenant, je suis descendu en dessous. Vous, vous êtes à combien ?
Ah, moi, je suis à 25%.
Ben voyons, vous n'êtes pas doué, alors.
Ah non, moi, je m'occupe pas de mon... Moi, je veux payer des impôts, hein, donc je cherche pas à optimiser...
Voilà, là, on a l'impression que l'impôt, il n'est pas plus progressif, mais il est régressif. Vous, vous payez 25%, bon, l'infirmier en paye 12, moi, j'en payais 15,5, maintenant, je suis en dessous.
Parce que ce sont des salaires, ou des honoraires, donc c'est des revenus du travail. Donc, nous, on paye plein pot. Mais à partir du moment où on a un patrimoine très important en structure, le patrimoine, et là, on arrive à réduire son taux marginal d'imposition.
L'avenir ne doit alors qu'une qualité, sinon elle perdra des parts de marché.
Conquérir de nouveaux marchés, la croissance, c'est l'emploi.
Lutter, c'est vivre.
Le problème, au moins voici, on va
faire un peu. Il faut redonner le français, le goût, le travail.
Allez au boulot, là, ouais, tu n'aurais rien à faire.
Une petite boîte, je pense qu'elle fait 500 grammes, tu vois.
On va se tourner maintenant vers un ministre de l'économie et des finances. Voilà, carrément. Michel Sapin a été ministre de l'économie et des finances entre avril 1992 et mars 1993 dans le gouvernement Pierre Bérégovoy. Il a été ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État avec Lionel Jospin. Il est socialiste et spécialiste des problème évidemment de, entre autres, de fiscalité, ce qui nous intéresse évidemment à l'horizon des élections de 2012 et ce qu'on comprend, enfin ce qu'on essaie de comprendre et de faire comprendre, c'est l'importance politique de la fiscalité et des choix concernant la fiscalité. Michel Sapin.
Michel Sapin, on se trouve dans votre bureau à l'Assemblée nationale. Vous êtes secrétaire national à l'économie et à la fiscalité au sein du Parti socialiste. Vous avez été ministre de l'économie en 1992 sous Pierre Bérégovoy. On a découvert dernièrement que la troisième fortune de France, Liliane Bettencourt, payait des impôts à hauteur de 9% de ses revenus. Je suis allé à l'hôpital d'Amiens, il y avait un infirmier qui était plutôt aux alentours de 12%. Moi j'étais à 15% avant d'avoir un enfant. Maintenant je suis passé en dessous des 9%. Mais j'étais à 15% avant d'avoir un enfant. Elle n'a manifestement plus d'enfants à charge. Enfin, comment ça se fait qu'elle paye que 9%. Comment on en est arrivé là ?
Par un processus qui a rendu terriblement compliqué quelque chose qui était très simple. Qu'est-ce qui était très simple ? L'impôt sur le revenu. Qui, au départ, dans ses concepteurs, mais jusqu'à ces toutes dernières années, était un impôt sur l'ensemble des revenus que l'on payait, j'allais dire, naturellement, avec un effet progressif, et donc ce qu'on appelle les fameuses tranches, qui jusqu'à il y a une dizaine d'années pouvaient monter jusqu'à 55%. C'était simple. Et puis, il y a eu cette forme de phobie de l'impôt, qui est apparue beaucoup à droite, mais qui parfois était un peu contagieuse et a pu être aussi portée par quelques voix à gauche. Et qui, parce qu'il fallait faire baisser l'impôt sans trop le montrer, donc on maintenait à peu près les tranches d'impôt sur le revenu, on laissait penser qu'on continuait à avoir un mécanisme progressif, par le mécanisme qu'on qualifie aujourd'hui des niches, arrive à des situations incroyables. Il n'y a qu'une seule solution dans ce domaine, c'est redonner de la simplicité et de la lisibilité un système fiscal naturel qu'on trouve dans tous les pays du monde, qui est un impôt normal et progressif sur l'ensemble des revenus.
Vous dites, cette phobie de l'impôt, vous l'avez vu s'imposer lentement, par quelles étapes, depuis quand ?
Cette idéologie qu'on a connue, venue des États-Unis, qui consistait à dire, si on rend les riches un peu plus riches, les pauvres vont en profiter. Ça s'est appelé aux États-Unis la théorie dite du ruissellement. Si en haut ils sont plus riches, ça va ruisseler progressivement et ceux qui sont en dessous vont pouvoir s'enrichir. C'est une doctrine qui n'a montré aucunement son efficacité économique, qui, bien entendu, est d'une injustice fiscale extraordinaire et qui, en plus, a appauvri les puissances publiques partout. C'est de là que vient le déficit monstrueux des États-Unis. C'est de là que viennent les déficits de la France. Il y a un chiffre que maintenant beaucoup de gens servent parce qu'il a été élaboré par quelqu'un qui est membre de la majorité, qui est M. Carré, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Il a fait un calcul très intéressant. Il a dit, si on appliquait au jour d'aujourd'hui les règles fiscales qui existaient il y a 10 ans, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, il est arrivé à la conclusion que nous aurions 100 milliards de recettes supplémentaires. Ou pour le dire autrement, au cours des 10 dernières années, en tripatouillant à la baisse les impôts, on a privé le budget de l'État et de la sécurité sociale, accessoirement, de 100 milliards. Vous connaissez peut-être le chiffre du déficit d'il y a 2 ans. C'était 50 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, la France aurait pu être à l'équilibre si on n'avait pas subi cette phobie de l'impôt.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.
Allô ?
Oui ?
Écoutez, je vous appelle en fait parce que j'aurais bien voulu interviewer quelqu'un du ministère des Finances pour un sujet sur les impôts et dont le point de départ est l'affaire Bettencourt. J'ai lu dans la presse qu'il n'y avait pas eu de contrôle fiscal depuis 13 ans.
À Bercy, je m'appelle Bercy, il y a 2 ministères différents et qui sont indépendants. Il y a le ministère de l'économie. Et le ministère du budget. Et tout ce qui est contrôle fiscal, c'est du ressort du ministère du budget. C'est leur job. Enfin, moi, contrôle fiscaux, je ne suis pas ça du tout.
Sur l'effet du bouclier fiscal, je croyais que le bouclier fiscal, c'était seulement quand on payait 50% de ses revenus en impôts. Et là, les spécialistes que j'ai consultés constataient que l'effort fiscal, on va dire, de Liliane Bettencourt était entre 5 et 10%, quoi.
Attendez, il y a un certain nombre de mécanismes pour les particuliers comme pour les entreprises, pour payer moins d'impôts.
Oui.
Après, vous les utilisez ou vous ne les utilisez pas.
Comme je me disais que c'était Madame Lagarde qui avait présenté la loi TEPA, dont le bouclier fiscal à l'intérieur, elle aurait peut-être à cœur de défendre cette mesure.
Bah voyons.
Pardon ?
Oui. Mais le problème, c'est pas d'être à cœur ou pas, c'est d'avoir le temps. Encore une fois, c'est au ministère du budget, c'est sa responsabilité. Voilà, je vous en prie.
Au revoir, monsieur. Michel Sapin. Alors, vous avez devant vous les échos. Moi, je viens d'Amiens, là, ce matin, j'ai pris le train pour venir d'Amiens. Et j'ai ramené mon quotidien régional, qui est le Courrier Picard. Et le titre du Courrier Picard en une, là, c'est 18 postes ont disparu dans les écoles. Le département, toujours confronté à des retards scolaires, perd au final 18 classes à la rentrée. Est-ce que vous faites un lien entre cette une du Courrier Picard, 18 postes ont disparu dans les écoles, et les baisses d'impôts ?
Bien sûr que le lien existe, même si on aimerait tellement qu'il n'existe pas. On aimerait tellement pouvoir dire les uns les autres, il faut plus de profs et moins d'impôts. Chacun voit bien que les services publics, l'action publique, la sécurité sociale, solidaire, c'est financé par quoi ? Par les impôts et les cotisations sociales. Et au fond, le degré de civilisation d'une société se mesure au niveau de solidarité, au niveau de construction entre les hommes et les femmes sur un même territoire, de quelque chose qui les relie entre eux, tous ensemble, avec les impôts que nous payons et en contrepartie la santé dont nous disposons, les transports publics dont nous disposons, les écoles dont nous disposons.
Il y a un discours de Nicolas Sarkozy qui m'a paru assez emblématique. Ça date du 12 juillet 2010. Dans un premier temps, il dit « Nous avons diminué les postes de fonctionnaires dans notre pays comme jamais. Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans dans le budget 2011. Nous en supprimerons encore 34 000. La France ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. » Et tout de suite après, il entame, Augmenter les impôts, je m'y refuse totalement.
Il y a des espèces de tics de langage. On parle pas des professeurs. On parle pas des policiers, des gendarmes, ou des infirmiers, ou des infirmières. On parle des fonctionnaires. Comme si, lorsqu'on supprime un poste sur deux de fonctionnaires, pardon, à la retraite, on supprimerait un sur deux bureaucrates obscurs, gris et tristes, ne faisant rien dans son bureau. Mais la moitié des fonctionnaires de l'État, ce sont des agents de l'éducation nationale. Donc quand vous diminuez le nombre des fonctionnaires, vous commencez d'abord et avant toute chose par diminuer le nombre des profs. Et après, ça a des conséquences dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Même un secteur qu'on croyait protégé dans l'esprit, dans la tête de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement, qui est celui de la sécurité, paye son tribut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la principale caractéristique de la politique de sécurité du président de la République, c'est d'avoir fait diminuer de 9000 le nombre des gendarmes et des policiers sur le terrain. Après, on peut toujours avoir des grands discours sécuritaires sur ceci, sur cela. Mais la sécurité, c'est aussi au quotidien, c'est aussi sur le terrain. Il faut encore des jeux de mots. Les fonctionnaires, c'est triste, on n'aime pas ça. Mais les policiers, on en veut plus. Les gendarmes, on en veut plus. Les profs, on en veut plus. Et pourtant, il y en a aujourd'hui moins.
Et pour faire passer le déficit de la France sous la barre des 3%, combien de millions de postes de fonctionnaires il faut supprimer?
Le chiffre est connu. Lorsque vous supprimez un poste de fonctionnaire sur deux partant à la retraite, chiffre du ministère du Budget, vous économisez 500 millions d'euros par an. Lorsque vous baissez la TVA dans la restauration, vous perdez 3 milliards d'euros de recettes. Je fais le calcul. Dans les 5 années de Nicolas Sarkozy, la diminution du nombre des fonctionnaires aura rapporté moins au budget de l'État que la baisse de TVA n'aura coûté au budget de l'État.
L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurer ceci: prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta: mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton fourneau, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano.
Vous êtes bien sur la messagerie vocale de Dominique Payet. Merci de me laisser un message avec vos coordonnées si vous voulez que je vous rappelle très rapidement.
Après votre message, faites le 1 pour plus d'options.
Bonjour monsieur le porte-parole de l'UMP. Je suis François Ruffin, journaliste à France Inter. Je prépare un sujet sur les impôts. Là, j'ai lu une donnée par le président du Cercle des fiscalistes qui annonce que en France, suite aux réformes du droit de succession, à la quasi-suppression de l'impôt sur les successions, 1 euro hérité est 3 fois moins taxé qu'un euro travaillé, je le cite. 1 euro hérité est 3 fois moins taxé qu'un euro travaillé. Donc j'aurais voulu avoir votre réaction sur cette donnée, sachant que le slogan de Nicolas Sarkozy était « Travailler plus pour gagner plus ». Est-ce que ça serait « Hériter plus pour gagner plus » ? Voilà. Eh bien, écoutez, si vous pouvez me rappeler, je vous remercie beaucoup, Monsieur Payet. Voilà, bon après-midi, au revoir.
C'était une nouvelle version du reportage de François Ruffin diffusé en septembre 2010. Seconde partie de l'émission demain jeudi. Et sur le sujet, vous pouvez réécouter l'émission du 30 août 2011 avec les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot qui dénoncent l'imposture des millionnaires demandant à être taxés plus. Vous retrouverez ces informations sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la rubrique Là-bas si j'y suis, et sur le site la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer, assistante Marina Touliez. Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Ce soir, des rassemblements sont prévus en France pour soutenir le processus d'adhésion de la Palestine aux Nations Unies. À Paris, le rendez-vous est fixé à 18h30, place de l'Opéra.
Fonds retraite, vous connaissez ?
Dans quelques instants, découvrez la solution retraite complémentaire sécurisée qui peut vous changer la retraite.
Préfonds retraite.
Il existe une force à travers le monde capable d'accompagner la croissance de votre entreprise, quelle que soit sa taille. DHL Express, l'excellence à votre service, tout simplement. Rejoignez-nous sur DHL.fr.
Et le loup, t'aimerais pas être aussi fort que nous? Voilà notre secret, le loup.
Manger 3 produits laitiers par jour. En plus, c'est facile.
Bah oui, prends un yaourt le matin, un verre de lait au goûter et un bon morceau de fromage le soir. C'est quand même pas compliqué, le loup.
Paf, paf, paf. Et 3 produits laitiers pour le loup.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne, de la France et du PNIEL.
Préfonds Retraite, vous connaissez ?
Oui, c'est le numéro 1 de la retraite complémentaire facultative de la fonction publique.
Aujourd'hui, nos experts vous conseillent au 30-25 pour vous préparer des revenus à vie sécurisés et bénéficier d'une fiscalité avantageuse.
Qui ? Moi ?
Oui, vous ! En France, 10 millions de personnes peuvent en profiter. Appelez vite au 30-25.
Préfonds Retraite.
30-25, appel gratuit depuis un poste fixe.
France Inter, partenaire de l'exposition Cézanne, Matisse, Picasso, l'aventure des Stein. Aux Galeries Nationales du Grand Palais, du 5 octobre au 16 janvier. Dans le Paris de la Belle Époque, la famille Stein côtoie toute l'avant-garde artistique. Matisse, Cézanne, Picasso, Renoir et tant d'autres. Une exposition exceptionnelle pour découvrir les chefs-d'œuvre de cette collection. Retrouvez l'aventure des Stein dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après le journal, vous retrouverez Frédéric Lodéon. Vous écoutez France Inter, il est précisément 16h. Et le flash vous est présenté par Laetitia Gaillet.
C'est fait, c'est, ils sont libres ou quasi. Un convoi officiel a quitté la prison de Téhéran aujourd'hui pour les deux randonneurs américains. Ils avaient été condamnés à 8 ans de prison pour espionnage et entrée illégale sur le territoire iranien. Ils sont donc libres ce soir. Ils vont être remis à l'ambassade de Suisse à Téhéran. Ils ont été remis en liberté sous caution. Les avocats de Troy Davis tentent le tout pour le tout à quelques heures de l'exécution de cet Américain de 42 ans. Ils ont déposé aujourd'hui un ultime recours devant le tribunal de l'État de Géorgie. Il réclame un sursis. Troy Davis a été condamné à mort pour le meurtre d'un policier blanc en 91, meurtre qu'il a toujours nié. Le comité des grâces de Géorgie avait rejeté hier la demande de ses avocats de commuer sa peine en prison à vie. Devenu en fait le symbole de la lutte contre la peine de mort, cette décision a soulevé l'indignation, notamment en France. Sa mort serait une faute irréparable, déclare le Quai d'Orsay. Amnesty International appelle à un rassemblement ce soir à 18h, place de la Concorde. À Paris. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont manifesté aujourd'hui dans les villes de Cisjordanie, manifestation dans une ambiance festive pour soutenir la demande d'adhésion d'un État de Palestine à l'ONU. Un rassemblement aussi du même ordre en Tunisie, à Tunis. Aux Nations Unies, à New York en revanche, le dossier israélo-palestinien fait l'objet d'intenses tractations. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé cet après-midi à un effort international pour sortir de l'impasse. C'est grosso modo ce qu'a dit aussi Nicolas Sarkozy hier soir. Le chef de l'État doit s'exprimer à nouveau aujourd'hui. Il doit également rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que le président américain Barack Obama. Pour éviter la contagion de la crise de la dette aux banques, le Fonds monétaire international propose aujourd'hui d'étendre le champ d'action du Fonds européen de stabilité financière aux banques les plus fragiles. En attendant, en Grèce, les transports publics, eux, devraient être paralysés demain. Les syndicats du public ont appelé à la grève demain, donc les 5 et 19 octobre prochains. Ils dénoncent les futures mesures d'austérité que doit dévoiler ce soir le gouvernement grec. Mesures à la demande des bailleurs de fonds pour octroyer à Athènes une nouvelle tranche d'aide de 8 milliards d'euros. Ils ont obtenu que l'emploi soit garanti jusqu'en 2014. En grève depuis 8 jours, les salariés de Faurecia dans les Vosges ont repris le travail aujourd'hui, après avoir donc signé un protocole d'accord avec leur direction. Le site sur lequel est fabriqué pour l'instant des armatures de sièges pour voitures doit être converti à terme dans la construction de voitures électriques. Après le centre du Japon, le typhon Rauk se dirige maintenant vers le nord de l'archipel, vers Fukushima. En 24 heures, Rauk a déjà fait beaucoup de dégâts, près de 600 000 foyers privés d'électricité et l'ensemble des transports perturbés. Les vents ont soufflé jusqu'à 240 km/h et déversé plus de 40 cm de pluie ces dernières 24 heures. Enfin, un clip choc pour demander l'abolition de la prostitution. Le lobby européen des femmes a présenté aujourd'hui devant les députés français sa campagne européenne. Alors on y voit de manière assez crue un homme prostitué enchaînant les passes avec des femmes. Le titre « Changeons de perspective ». Ce clip est visible sur le site womanlobby.org. En réaction, des travailleurs du sexe ont manifesté cet après-midi devant l'Assemblée pour dénoncer une propagande sexiste et moraliste. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les dimanches à partir de midi, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
Dimanche, 12h-14h, 3D au studio 109 de la Maison de la Radio, en direct et en public, la transdisciplinarité pour traiter l'actualité.
3D.
Des fauteuils rouges, comme au cinéma.
En direct et en public du studio 109.
De la proximité.
Tous les dimanches.
3D pour vous et avec vous.
À partir de midi.
Dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence. Carrefour de l'Odéon, c'est maintenant à vous, Frédéric.
Et bonjour Laetitia.
Bonjour.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Ces jours-ci, on a réalisé une enquête pour savoir ce que les Français préfèrent, ce que nous préférons manger. Eh ben oui, alors le foie gras arrive en tête, bien sûr, mais il y a la solmelière bien placée, il y a le pot-au-feu, la blanquette, oh là, il paraît que les gens se jettent dessus, nous nous jetons dessus quand elle est, j'allais dire programmée, quand elle est affichée au restaurant, et puis pas mal de choses sympathiques, le pot-au-feu, bien là, parce que on le fait d'abord... il est chaud, ensuite on en garde des petits morceaux, et puis on peut le manger froid, on peut en faire aussi du hachis parmentier, enfin bref, grand consensus, comme on dit, de manière sérieuse, sur le pot-au-feu. Ben, Jacques Offenbach, il aimait bien déguster aussi, il a écrit de la jolie musique qui est offerte par le Quatuor Gastronomique. Voici le pot-au-feu de Robinson.
De tous ces plats compliqués, ma chère, rien ne vaut un bon pot-au-feu.
Un quoi ?
Un pot-au-feu !
Mais comment faites-vous ça ?
Je vais vous dire ma recette. Prenez en note.
En chantant,
en chantant,
en chantant,
en chantant.
Le pot-au-feu de Robinson de Jacques Offenbach, comme quoi gastronomie peut adoucir les mœurs. Même des sauvages se sont mis à manger correctement. Voilà, ben, Offenbach au menu par le Quatuor Gastronomique, c'est publié chez Maglone. Je vais citer quand même les artistes. Il y a Sylvie qui est soprano, qui chante la voix du duo. Sylvie Berthaud, bien souriante, bien sympathique. Marie-Thérèse Keller, mezzo. Pierre Catala, qui est ténor, et bien sûr. Et on va arriver au baryton, Jean-Marc Salzmann, et puis Marie Diberne qui est au piano, un disque sympathique, souriant et alléchant. Voilà, plus sérieusement, des moments romantiques maintenant avec les nuits du lac du Bourget. Ça commence dans deux jours. C'est un monument des festivals dédié à Fran-